Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Galère au 88.4. Vous écoutez l'émission Écoforum, l'émission qui donne la parole aux actrices et aux acteurs engagés sur les questions de transition environnementale et solidaire de Marseille et sa région. Nous sommes le mercredi 15 mars 2023 et nous sommes en direct de 19h à 20h. Vous pourrez retrouver cette émission en rediffusion demain, jeudi 16 mars entre 9h et 10h, ainsi qu'en podcast sur radiogalère.fr lorsque vous tapez Écoforum. Je suis Marin Moffret et accompagné ce soir de Chloé.
Bonsoir.
Avec Sidi en régie pour ce soir et nous recevons l'après-M. Ce soir, bonsoir Talina, Kamel et Mohamed.
Bonsoir.
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 Et avant de vous donner la parole, je vais un petit peu vous introduire. L'après-M, si on s'en tient simplement à ce qui est écrit sur votre site internet, est situé au carrefour des quartiers nord de Marseille, dans l'enceinte de l'ancien restaurant McDonald's Barthélémy, et est une plateforme d'entraide née de la solidarité d'anciens employés, d'associations, d'organisations syndicales et d'habitants dans divers quartiers de Marseille. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'a-t-on vraiment dit ? Aujourd'hui, de nombreux médias mettent les projecteurs sur ce que vous faites, car vous êtes une forme d'incarnation de nombreux combats, pour la dignité des femmes et des hommes, pour la dignité au travail, pour la lutte contre les mouvements financiers de certaines multinationales, et aussi parce que vous incarnez le récit de quartiers populaires qui se lèvent dans la dignité et qui trouvent leur fierté de s'être battus avec leurs armes pour continuer simplement à être. Mais ce n'est pas dans ces présentations classiques que je souhaite m'inscrire pour vous présenter. Il faut savoir se placer pour dire d'où l'on parle. Et ce soir, en tant qu'animateur, ma position est un petit peu particulière, car mon rôle est de vous mettre en avant. Et pourtant, la radio, ce sont aussi des échanges et des rencontres. Et parler de l'après-M, ce n'est pas forcément anodin pour moi. Et il y a une certaine émotion à vous recevoir. Pourquoi ? Parce que l'après-M est pour moi ma première rencontre avec Marseille. Et j'irai même plus loin, la rencontre avec les raisons profondes de mon engagement. Nous ne venons absolument pas des mêmes milieux. Et lorsque je suis arrivé ici sans connaître personne il y a 3 ans pour faire mon pas de côté et quitter le confort d'une vie parisienne pour être en cohérence avec mes valeurs et une vie résolument plus solidaire et résiliente, je savais très bien ce à quoi je disais non. Et vous, vous étiez un début de réponse de savoir à ce à quoi j'avais envie de dire oui. Alors, j'ai été honoré d'être envoyé en mission de service civique à l'après-M et 3 ans plus tard, de pouvoir vous recevoir ici à la radio avec Chloé, avec qui nous animons ces émissions depuis maintenant 1 an. Et donc, pour vous présenter un petit peu le cheminement de la discussion et de la réflexion qu'on va avoir ce soir, nous invitons nos auditeurs et nos auditrices, ainsi que vous, à réfléchir en 4 temps. Le premier temps, ça va être de vous présenter pour qu'on puisse se projeter un peu dans vos parcours, vous, et puis ensuite de raconter l'histoire de l'après-M, de la lutte, et puis de ce qui a germé des graines que vous avez semées. De présenter en 3e partie les projets actuels de l'après-M, et puis après la pause musicale, on prendra le temps de réfléchir et de prendre un peu de hauteur sur ce qu'est l'écologie populaire. Voici donc le programme, si vous l'acceptez. Et pour débuter, eh bien, ça pourrait être une chouette idée que vous puissiez un petit peu vous présenter et voilà, que nous puissions rentrer dans vos parcours et les trajectoires qui vous ont amené à prendre les engagements qui sont les vôtres. Est-ce que quelqu'un veut débuter ?
Ben, je dirais qu'il y a Tanina, on est aux femmes.
Ok. Donc moi c'est Tanina. Mon parcours il a commencé en Algérie. Je suis née à Alger, à Bab El Oued plus précisément. Je le répète assez souvent pour rappeler aux gens que c'est un vrai quartier d'Alger. C'est pas un truc qui existe que dans les expressions pour dire très long. Et je suis arrivée en France à 15 ans dans les quartiers populaires, alors pas autour de Marseille. Et depuis cette date-là, je me cherchais un endroit, moi, quoi. Un endroit où je me sentirais plus exilée. Et c'est Marseille qui m'a adoptée il y a maintenant 5-6 ans. Et entre les deux, j'ai pas mal voyagé. J'ai vécu 10 ans à Madagascar, juste avant de venir à Marseille. Et mon parcours, en gros, professionnel, il a été autour de deux éléments. Tout ce qui est alimentaire, alimentation, transformation de produits alimentaires, voire en partant vraiment de l'agriculture, voire de la forêt, quoi. En gros, et les questions de lutte contre la pauvreté, J'ai travaillé pour pas mal d'associations. Voilà, depuis mes 20 ans jusqu'à aujourd'hui. Et je suis bénévole à l'APREM depuis un peu plus d'un an maintenant. Et un peu le même effet que je pense que tu disais tout à l'heure, quoi, le truc de, à un moment donné, arriver là et peut-être des fois, sans démo, sentir qu'on est juste au bon endroit, là où ça fait sens, quoi. L'énergie qu'il y a là, la façon dont ça fonctionne, ça file de l'énergie et ça donne envie d'en filer aussi. Voilà.
Merci beaucoup, Talina, de ce partage. Et effectivement, cette énergie, elle se ressent tout de suite. Si je dois un petit peu continuer dans ces expériences, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, Mohamed, je ne suis pas sûr qu'on s'était rencontrés à ce moment-là, mais Kamel, ça avait été le sourire et l'attention que tu portais à dire bonjour et échanger un mot avec tout le monde, qui qu'il soit, d'où qu'il vienne. Et vraiment, cette ambiance de lutte, parce qu'il y avait des grandes banderoles partout à l'époque, et en même temps, d'un profond respect à la fois pour l'outil de travail, qui était protégé par des bâches, et il fallait faire très attention parce que vous n'étiez pas sûr que vous alliez pouvoir le récupérer ou non, et aussi la dignité pour chacun et chacune qui avait besoin d'aide et ceux qui travaillaient. Donc je m'inscris tout à fait dans ces propos, Talina, sur cette ambiance et cette énergie qui se ressent à l'après-M. Et Kamel, je te laisse aussi présenter ce long parcours que tu as mené et que tu continues à mener avec l'après-M.
Je dirais que pas un très grand parcours, mais j'ai mené un long chemin qui aujourd'hui m'a donné une expérience, une analyse, et ça m'a permis d'absorber pas mal de douleurs et prendre conscience que de toutes ces fractures là qu'il y a dans nos quartiers populaires. Dire, on parle de quartiers populaires, on parle pas que des quartiers nord. Parce que cette misère-là n'a pas de frontières, ni de vacances, ni de week-ends. On a essayé de l'exprimer le plus sagement possible. Et avec très peu d'outils, pas d'expérience, mais un grand courage. C'est ce courage-là qui a réussi à nous donner l'opportunité de faire face à un rouleau compresseur, à un système qu'il arrive à nous déshumaniser. Ce système-là, on lui a fait comprendre que dans la vie, il n'y a pas que les bonbons qui font tomber les dents. Et je dirais que à travers cette douleur et cette souffrance, le monde d'après, comment on pourrait le réfléchir, comment on pourrait le partager, et comment on pourrait essayer de laisser un héritage derrière nous qui pourrait perdurer, parce que quand on se bat pour nous, certes, on peut peut-être gagner, mais on est limité qu'à nous. Mais nous, on a voulu dépasser ce clivage, on a voulu pas se battre que pour nous, mais on a voulu se battre d'abord pour notre prochain. Parce qu'à travers moi, mon parcours, j'ai pas eu un grand parcours scolaire. J'étais en perdition, mais j'avais un rêve, comme pas mal d'enfants des quartiers populaires qui, normalement, ça devrait même pas être un rêve, alors que nous sommes dans une puissance mondiale. Ça doit être une normalité dans le pays du droit de l'homme de pouvoir avoir un travail digne, de pouvoir avoir un toit, une petite voiture, une famille. Ça doit être une normalité. On devrait rêver de voyager, de faire le tour du monde, de monter sur la lune, alors qu'on essaye de nous limiter et de nous pointer du doigt. À travers cette colère-là, on a réussi à prouver à certaines personnes qu'il va falloir cesser de nous pointer du doigt, mais plutôt nous tendre la main.
Puis tu parlais de construire un héritage, et cet héritage, il se construit avec, c'est en collectif et avec toutes celles et ceux qui, toutes les bonnes énergies qui, qui sont autour. Et puis il y a celle de Mohamed aussi qui fait partie de cet héritage. Donc je te laisse aussi te présenter à ton tour pour compléter ce tour de table.
Alors je suis un enfant ici des quartiers nord de Marseille, du parc Corot, où j'ai vu et je connaissais le McDonald's quand il y avait cette enseigne-là. Avant qu'il y ait eu cette liquidation judiciaire, c'est là où j'amenais mes enfants manger et jouer. C'était un endroit agréable, c'était un endroit de rencontre, de partage, où on se rencontrait tous les enfants ici du quartier nord, que ce soit de Picon, de la Busserine, ben, on se regardait, on mangeait, on rigolait, et on se rencontrait ici, là-bas, hein, dans ce fameux McDo. Donc j'ai appris que tout est fermé, l'économie, il n'y avait plus rien qui était en cours, que toutes les entreprises avaient arrêté. Donc vu que je suis d'un secteur de la distribution, de grande distribution du côté du bricolage, donc je voulais mettre mes compétences au service d'une entraide, d'une solidarité, où toutes les associations se sont réunies à l'intérieur afin de distribuer des colis alimentaires. Et c'est ça qui m'a plu, de mettre en compétence mon savoir-faire, grâce aussi à des formations que j'ai pu avoir, gratifiantes et intéressantes. Donc j'ai mis la main à la pâte et on s'est dit qu'il fallait quand même retrousser les manches et vraiment aller droit au but, qui était un peu la précarité, que les personnes maintenant issues des quartiers et des environs n'avaient pas peur de mourir de faim, mais ils n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais ils avaient peur de mourir de faim. Donc quand ils nous disaient que le frigo était vide, qu'il fallait le remplir, et qu'il y avait des restaurateurs qui avaient arrêté aussi leur activité, et que les déstockeurs nous apportaient pas mal de dons, et qu'il y avait cette 50 associations qui venaient à l'intérieur, qui distribuaient surtout Marseille, et non pas que les associations, il y a aussi des sites universitaires qui étaient vraiment dans des situations vraiment très compliquées. Il fallait les aider, tant bien que mal, avec cette énergie humaine, où il fallait contribuer à pouvoir tendre la main à son prochain.
Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas l'histoire de l'après-m, comment est-ce qu'on passe d'un McDo à des colis alimentaires? Est-ce que vous pouvez un peu retracer l'histoire finalement l'arrivée progressive à la raison d'être que vous exprimez entre les lignes? Est-ce que Kamel, Mohamed ou Talina?
Ben, je dirais que l'histoire, elle est lointaine. Déjà, ça part de notre éducation de base et de l'histoire de l'immigration. Nos parents, quand ils sont venus, ils se sont donnés corps et âme pour construire cette France et pour la défendre avant ça. Dire que nous sommes là et nous sommes légitimes. Malgré tout, on les a cloisonnés dans des bidonvilles. Il y a eu l'époque des ratonnades, il y a eu ce traumatisme qui perdure jusqu'à au jour d'aujourd'hui, hein, qu'on arrive à retrouver à travers la mort d'Ibrahim Ali, que l'extrême droite elle dit que non, mais c'est un acte politique ou c'est un condamné politique alors qu'il a octroyé une vie. Nulle des personnes ne choisit sa race. Dire je n'ai pas choisi d'être maghrébin, l'espagnol n'a pas choisi d'être espagnol, ou le juif n'a pas choisi d'être juif, mais on choisit d'être con ou pas. Donc nous, on est conscient que nos parents, ce sont des travailleurs, ils ont trimé pour pouvoir s'intégrer. Et avec le temps, on a essayé de s'intégrer, mais comment on peut s'intégrer dans le rejet? Ça, pour nous, c'est très difficile et on l'a mal vécu. On a essayé de changer nos prénoms pour pouvoir s'intégrer. On a essayé de, s'il y avait moyen de changer notre couleur, peut-être si on aurait le moyen, pour certaines personnes, on l'aurait fait. Mais la dignité, elle est où? Le choix de race, il n'y a qu'une seule race, c'est la race humaine pour moi. Il y a eu toute cette colère de nous cloisonner entre soi dans ces quartiers populaires, et de nous laisser en roue libre, et de s'amuser avec nous, à travers des couleurs politiques. Donc moi, quand j'ai intégré ce restaurant, j'étais en perdition, perte de confiance, rêvé de pouvoir essayer de trouver un simple emploi. J'avais pas la conscience de que cette multinationale pratiquait le dumping social, que les salariés c'était de la chair à canon, que pour eux, ben si on est plus rentable, ben on est mis à la porte.
C'était quand que tu as intégré McDo?
Je suis rentré en 98.
Ok.
Donc j'ai travaillé plus de 20 ans.
Et à l'époque, c'était pour trouver un travail ou tu avais déjà, là tu dis que tu étais en perdition, ou tu avais déjà cette volonté de se dire par ce travail, on va réussir à...
À l'époque, j'avais pas le choix, que j'avais pas le choix parce que j'ai pas fait d'études, j'ai pas eu l'opportunité de pouvoir tenir et apprendre en classe parce que aussi j'étais en roue libre. Donc, j'avais pas de personnes qui pouvaient m'encadrer. Mes parents n'avaient pas un niveau scolaire aussi. Je me suis retrouvé plus ou moins livré à moi-même. Donc, quand j'ai trouvé ce travail-là, ben, j'ai essayé de m'accrocher, corps et âme, pour pouvoir essayer d'être comme les autres. Ça m'a appris à travailler en équipe. Ça m'a donné confiance en moi. Donc, et à travers chaque évolution, d'équipier polyvalent, j'ai évolué formateur. De formateur, j'ai évolué responsable de zone. Et à chaque évolution, ça m'a donné une prise de confiance en moi. Et de me dire, dans la vie, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des obstacles. Et ces obstacles, à chaque fois qu'on arrive à les franchir, eh bien, c'est une expérience qui est acquise. Et cette expérience-là, eh bien, on essaye de la transmettre pour que nos petits frères ou petites sœurs ne les reproduisent pas ou en tirent une leçon. Donc de là, ben, on a pris une petite conscience que ce n'était pas un restaurant comme les autres. C'est la plupart des travailleuses et travailleurs au sein de ce restaurant qui se trouvent...
Ils trouvaient la dignité dans ce qu'ils faisaient.
Ils trouvaient la dignité, mais la plupart des travailleuses et travailleurs qui travaillaient là-bas, ils étaient issus de familles monoparentales.
Ouais.
C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas un restaurant comme les autres. La plupart des autres restaurants, c'est la majorité, il y a des étudiantes et des étudiants. Le turnover, il est très élevé. Ils n'ont pas le temps de s'organiser pour leurs conditions de travail ou pour pouvoir faire valoir leurs droits. Donc, nous, on a mis cette petite machine en route. J'ai commencé à ouvrir mon premier livre, était le Code du travail. Que j'ai attaqué par un truc très difficile. Je remercie Fabrice et Gérald Dossetto, qui est un ancien, qui est, je dirais, paix à son âme, qui a été beaucoup là derrière moi à me pousser et à essayer de me dire, si tu veux remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau, il va falloir que tu apprennes tes droits. Le patron, quand tu lui parles, tu vas lui parler en tant que partenaire social, mais pas en tant que employé. Et là, j'ai commencé à avoir des outils. Et ces outils-là, quand on a commencé à les mettre en application, on a commencé à faire évoluer pas mal de choses, pas mal de droits au sein de cette enseigne-là.
Et alors, dans ces cas-là, si jamais il y a une espèce de montée progressive et que du fait que tu connaisses tes droits, tu t'intègres dans une république avec un état de droit et donc tu arrives à discuter avec les patrons, qu'est-ce qui fait qu'à un moment il y a un basculement pour que le McDo, qui était un McDo,
je dirais, quand vous dites m'intégrer, ça me heurte parce que à vouloir trop rentrer dans le moule, on en finit par devenir une tarte. Comment on peut s'intégrer dans le rejet? Nous, on ne cherche plus à s'intégrer, on cherche à s'imposer.
Ouais.
Et s'imposer par nos bonnes intentions. Et laissons nos actes s'exprimer de soi. Donc, on a eu cette petite conscience politique. Et oui, nous sommes politisés, mais nous sommes partisans. Parce que l'enfant du droitier ou l'enfant du gauchiste ne doit pas être un dommage collatéral. Et il ne faut pas qu'on rentre dans ces jeux-là. Et on a pris conscience rapidement, nous, en tant que travailleurs au sein de ce lieu, ou en tant que militants, que quand on rentre dans ces ces couleurs-là, on est souvent absorbé par le clientélisme, par tout ce qui peut se pratiquer, qui n'est pas humain, qui n'est pas juste. On a serré les dents et on a essayé de pouvoir faire valoir nos droits. Et quand on a obtenu des droits, on a essayé de les partager parce que le bien, on l'a jamais conservé. On a essayé de le partager pour qu'il puisse s'agrandir. Et on a commencé à dénoncer comment nous, en tant que salariés, nous avons un 13e mois, nous avons des primes trimestrielles, nous avons des heures majorées à partir de 22 heures. Et le travailleur ou la travailleuse qui travaille à côté de nous, qui a les mêmes embauches que nous, les mêmes formations, les mêmes évolutions. Et alors que l'hamburger a le même goût, on n'a pas les mêmes acquis sociaux, les mêmes droits. Donc de là, on a commencé à demander de la mise en place d'une charte sociale.
Ouais.
On l'a obtenue plus ou moins dans le département. Et quand on a commencé à devenir un modèle social très dangereux pour certains franchisés qui sont des requins déguisés en dauphins, ils ont commencé à essayer de dispatcher la franchise.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que on avait un franchisé qui avait 24 restaurants, 1200 salariés. Donc, au bout de tant de franchises, on ne renouvelait plus le bail et on prenait ces restaurants, on les donnait à un autre franchisé. Ce franchisé, qu'est-ce qu'il faisait ? Il maintenait les acquis et les droits. Au bout de 15 mois et 3 mois, il pratiquait le dumping social et dénonçait les accords. Donc, il disait que les accords sont tombés à l'eau. Plus de 13e mois, plus de participation bénéfice, plus d'heures de nuit. Et donc, certes, quand il rachète les restaurants, les mandats de délégués syndicales, à l'époque c'était le CHACT, le CSP, donc tombés. Il n'y avait plus d'élus. Et quand il n'y a plus d'élus, souvent ces patrons mettent des élus à leur botte pour essayer de cloisonner le champ social. Parce que McDo a signé une charte d'environnement, mais elle se dévoue de la charte sociale. Donc de là, on a pris une colère en 2012, on a bloqué la centrale, on a paralysé 215 McDo. 215 McDo, un McDo qui fait 10 000 euros par jour fois 215 pendant 8 jours.
Ça embête les patrons, ça. Et pas que le patron, ça embête toute la structure.
Ça embête toute la structure. Mais avec le temps, on a compris que l'argent, ils en ont. Ils veulent en gagner encore plus, mais ils en ont. C'est pas ça qui allait faire changer les choses. Mais par cette cause et par cette action, donc on est rentré en contact avec les collègues de Rouen, ça nous a donner notre vision et on a compris que cette douleur-là qu'on ressentait nous dans ces quartiers ou dans ce restaurant, ils ressentaient la même chose à Elbeuf, à Rouen ou à Paris ou à Lyon. Donc on est rentré en contact avec pas mal de collègues, on a monté un Facebook et on a essayé de mettre tout ça en lumière sur les réseaux, sur vos droits chez McDo, sur les indignés chez McDonald's, sur droit McDo rapide, et ainsi de suite. Chaque ville avait son Facebook et on essayait de communiquer, faire partager l'information. De là, on est rentré en contact avec les collègues de Paris et on a commencé à dénoncer l'évasion fiscale. L'évasion fiscale, ça concerne toutes citoyennes et citoyens. Parce que nous, on dénonce cette évasion fiscale, mais cette évasion fiscale, elle impacte nos instituts, elle impacte nos hôpitaux et nos quartiers. Donc, quand on a commencé à dénoncer ça, on est devenu un modèle social très dangereux. Et McDonald's a voulu nous éliminer à travers des protagonistes, que ce soit tel franchisé du Vieux-Port, qui s'appelle Mohamed Abbassi, Jean-Pierre Broquereau, Christophe Chapuis. Toutes ces personnes-là ont manigancé, ont essayé de mettre ce restaurant en échec, alors que c'est un restaurant qui faisait partie d'une zone franche. Ce restaurant était la place du village. Ce restaurant, quand on l'a mis en place, c'est pour dynamiser l'emploi. Et on arrive en 2019, au lieu de continuer à nous tendre la main, on dynamite l'emploi. Pour nous, il était hors de question. Et on était prêt à donner nos vies pour pouvoir maintenir l'accès à l'emploi.
Et alors du coup, c'est quoi le moment de bascule et le moment où ça s'arrête d'être ce que c'était pour rentrer dans une zone franche et être un espèce de point zéro de la suite, puisqu'en plus vous appelez l'après-M, c'est l'après-McDo. Quel est le moment de la bascule? Qu'est-ce qui se passe après?
Il y a eu plusieurs moments parce que nous, on a appris à aimer le menteur. Mais on a appris à l'accompagner jusqu'à la porte de son mensonge. Donc quand ils ont voulu nous vendre un repreneur qui a été condamné par le tribunal et ils ont annulé la vente, ça a été déjà une première bataille de gagner et de leur montrer que nous ne sommes pas du bétail. Et on doit bien nous traiter parce que les pouvoirs publics vous l'ont rendu à travers la zone franche, à travers la TVA, à travers l'aide à l'embauche, parce que c'est notre argent, c'est la sueur des citoyennes et des citoyens. Vous n'avez pas le droit de vous amuser, vous n'avez pas le droit de vous amuser à des fins personnelles. Il y a eu un licenciement économique qui a été annulé par l'inspection de travail qui... Ça a été, c'est monté jusqu'à la ministre Pénicaud à l'époque, qui a été refusée. Après, il y a eu la liquidation judiciaire. Bah, là, on est face à un tribunal.
La liquidation judiciaire qui a été prononcée en 2019, c'est de là
le
que...
Le 12 décembre 2019. Mais nous, comme je disais, le menteur, on aime bien l'accompagner jusqu'à la porte de son mensonge. De suite, on a assigné le AGS, on a assigné le liquidateur et toutes ces personnes... de pouvoir appliquer l'article 12-24-1, que le fonds de commerce appartient à McDonald's France, les murs appartiennent à McDonald's France, on liquide une identité qui est sous débat, donc transférer nos contrats. De là, ils ont transféré nos contrats dans une holding, mais cette holding, il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de patron, donc on s'est retrouvé à peu près plus d'une soixantaine ou 70 salariés dans cette holding-là. Ils ne pouvaient plus nous licencier, ni nous payer. Mais par contre, il y avait de l'argent dans cette holding, il y avait plus d'un milliard d'euros qui transitait par an. Tu vois, ils nous ont mis dans un coffre de Picsou, Connage, mais il est fermé. Merde. Mais on a pris notre mal à patience et on s'est dit, on va pas lâcher. Donc, malheureusement, j'ai vécu 3 mois qui m'ont déchiré le cœur. Ils ont retourné les salariés contre moi. De leur dire aujourd'hui, si vous n'êtes pas payé, si vous êtes dans cette situation, c'est à cause de lui. Qu'alors moi, je souhaitais qu'on préserve l'outil de travail, qu'on préserve cet ascenseur social, comme moi, on m'a tendu la main, que j'ai pu reprendre confiance en moi et que je ne me suis pas penché dans l'économie parallèle ou devenu un voyou low cost. Comme aujourd'hui, on en rencontre dans pas mal de quartiers. Parce que les pauvres n'ont pas le choix que... de connaître cette économie-là. Donc, j'ai serré les dents, je leur ai donné un accord de principe et on est rentré. Ils ont désigné un médiateur par le tribunal. Et ce médiateur, on est rentré en négociation, on leur a arraché 1 600 000 euros de rupture conventionnelle pour une entreprise qui était en liquidation, qui n'a pas de sous. Je ne comprends pas d'où ils ont sorti ces 1 600 000 euros. Donc j'étais content parce que le salarié qui avait moins de 2 ans et qui était à mi-temps, il est parti avec plus de 15 000 euros net et ça pouvait aller jusqu'à 270 000 euros. Mais pas assez parce qu'ils ont perdu leur travail. Il y en a qui ont perdu 30 ans ou 28 ans de vie, de sacrifice, d'emploi. On s'est dit, merde, mais on va appauvrir un territoire parce qu'on retire l'accès à l'emploi. Donc moi, je me suis mis à leur niveau. Donc une fois que je me suis rendu avec mon avocat pour signer cette rupture conventionnelle et un accord de ne plus rentrer dans le restaurant et tout ça, je l'ai déchiré. Je leur ai dit dent pour dent, œil pour œil, je vais là où vous voulez, j'ai rien à perdre. Je veux rien, j'ai rien à perdre. Donc je suis resté. Peu de temps après, il y a eu le confinement. Comme le disait Mohamed tout à l'heure, Il y a eu la plupart des habitants, ils n'avaient pas peur de mourir du Covid, mais avaient peur de mourir de faim. Mais nous, on avait conscience que ces habitants nous ont aidés à gagner notre subsistance pendant des années. C'est eux les réels patrons. C'est à eux à qui on doit. Ben, on a transformé ce restaurant en banque d'entraide.
Et alors, comment est-ce que ça s'est progressivement mis en place? Parce que moi, je suis arrivé à ce moment-là où c'était après le confinement, mais il y a eu la grosse phase de confinement où il y avait des situations qui étaient extrêmement critiques. Est-ce que vous voulez un peu raconter comment est-ce que vous vous êtes retrouvé juste après cette liquidation judiciaire?
Oui, parce que du coup, la liquidation judiciaire était prononcée en décembre 2019. Le Covid arrive quelques mois après, en 2020. Qu'est-ce qui se passe de cet endroit, de cette structure?
Ben, ça a été... Moi, j'étais toujours salarié d'une holding, mais non rémunéré, mais on ne pouvait pas me licencier. J'étais dans un flou juridique, il y avait une bataille juridique qui se menait. Donc on ne pouvait pas me sortir, on ne pouvait pas me payer. Même eux, ils étaient dépassés. Mais après, quand on arrive à faire le tour du monde avec le New York Times, Washington Post, Forbes, El País, des articles en Chine et tout ça... Là, on a compris qu'on a réussi à tenir leur talon d'Achille et on a pris conscience que leur image, elle vaut mieux que nos vies. Mais nous, eh ben, on va essayer de secouer cette arche et cette image-là pour qu'on puisse nous respecter. Et même si ces personnes-là, souvent, quand on parlait, ils n'arrivaient pas à dire mon nom, ils disaient le trou du cul. C'est, au début, je le prenais mal. Je me suis dit, merde, mais comment ils me traitent? Et avec le temps, ben, j'ai aimé d'être un trou du cul parce que j'ai pris conscience que le trou du cul dans le corps humain était un organe vital.
Et au-delà de ça, parce que tu leur faisais peur et que tu te rendais compte aussi que tu étais en mesure de... Enfin, j'ai pas envie de tirer la métaphore plus loin. Mais maintenant qu'on a fait cette longue histoire où, pour nous, c'est pas une habitude sur Radio Galère de parler vraiment d'une lutte. Mais c'est bien parce que ça, on est vraiment au cœur finalement de ces questions de domination où on se rend compte que quand on parle de dite transition, c'est les rapports de domination et ensuite qui se filent selon les sujets. Il y a les rapports entre les hommes et les femmes, entre les personnes qui ont le pouvoir ou l'argent et ceux qui ne l'ont pas, entre les humains et le non-humain, entre des personnes qui viennent de pays occidentaux et ceux qui ne le sont pas. Comment est-ce que ce que vous essayez d'incarner aujourd'hui essaye de proposer quelque chose de plus harmonieux? Parce que c'est finalement cette espèce d'écosystème plus harmonieux sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan de l'inclusion que vous essayez de mettre en place. Talina?
En fait, je pense que ça se réfléchit à plein d'endroits en même temps. La question du... typiquement du droit du travail, de la place des salariés, c'est un élément qui est hyper important. Les conditions salariales de re-recrutement, elles ont été vraiment réfléchies pour être bien plus favorables qu'elles l'étaient au McDo. L'idée que aussi les choses se discutent avec les salariés, enfin, c'est vraiment cette question du salarié versus patron, évidemment elle ne se pose pas du tout de la même manière. La question des ressources, est-ce qu'on en fait, puisque ce que disait Kamal tout à l'heure, la question de l'évasion fiscale, c'était pas un petit sujet quand même. Qu'est-ce que la sueur de ces gens qui travaillent ici, à quoi elle servait, où elle était envoyée et à qui? Là, l'idée, c'est que tous les excédents vont servir aux activités d'entraide, à développer les activités d'entraide. Le fait que les activités d'entraide, évidemment, elles continuent, quoi. L'activité là, économique qui a été relancée, elle se passe en parallèle des distributions qui continuent à avoir lieu tous les lundis et d'autres. Ça reste aussi un espace où il y a des activités d'entraide qui ont lieu régulièrement.
Est-ce que je peux vous couper?
Ouais.
Et vous demandez justement de préciser, de présenter un peu bah, justement les différentes activités d'entraide et les différentes activités qui ont lieu en ce moment à l'après-M.
À moi, Tanina. Bah, merci. Donc c'est un projet de vie que nous avons, qui veut dire village d'initiative d'entraide. Donc on a la chance d'avoir des conteneurs, où on met à disposition des produits secs et des produits aussi frais. on les conserve. Ça nous permet ensuite de pouvoir les redistribuer le lundi. On reçoit à peu près 700 personnes, donc c'est 700 foyers. Mis à part le lundi, on ouvre la distribution de 7h30 jusqu'à 10h. Mmh. Pourquoi jusqu'à 10h? Parce qu'il y a l'après-midi qui ouvre à partir de 11h. Donc vous avez tous cet espace un peu logistique à déplacer. Nous avons aussi le Uber, qui veut dire Union de Bienveillance, d'entraide pour un repas solidaire, là où nous allons livrer les personnes qui sont en situation d'handicap, des personnes qui ne peuvent pas se déplacer chez nous à l'après-midi. On leur remet un colis alimentaire, qui se compose de produits frais et de produits secs aussi, de la farine, vous avez aussi du lait, vous avez des boîtes de conserve, c'est en fonction des moyens que nous avons. Et on remercie infiniment le peuple, les gens qui ont pu contribuer, contribuent aussi toujours grâce à des cagnottes en ligne et aussi au site de l'APRIEM qui nous permet de pouvoir acheter ces produits-là et de pouvoir ensuite les distribuer à titre gracieux aux personnes qui sont vraiment dans une situation très précaire. Donc nous avons aussi comme projet d'acheter des conteneurs aussi, des bungalows pour pouvoir faire une cuisine partagée. Mmh. Où les maraudes pour des associations qui font des maraudes, qui distribuent des repas chauds à tout Marseille, à nos amis de la rue, de pouvoir venir chez nous, de les cuisiner et de pouvoir ensuite par la suite les distribuer sur tous les arrondissements de Marseille. Vous avez aussi un méthaniseur qui est aussi un projet. Nous avons aussi une conserverie qui nous permettra non pas de tout jeter, mais il n'y a rien qui se jette, il y a tout qui se conserve et qui peut aussi se projeter afin qu'on puisse faire des confitures où les habitants et les habitantes pourront venir ici, chez nous, partir avec un petit pot de confiture. Et aussi, ça nous permettra de pouvoir donner des produits bio aux personnes qui sont vraiment dans le besoin.
Donc, sur la base au départ de cette lutte que tu nous as présentée, Kamel, ensuite, c'est une espèce de permaculture de projet qui se mettent en place sur un même lieu, celui-ci, et que tu viens de nous décrire, Mohamed, mais aussi avec d'autres lieux où vous avez cette ambition de pouvoir faire du maillage avec d'autres structures, avec les associations, et de répondre aux besoins les plus essentiels des habitantes et des habitants. Il y en a un que vous avez, qui est la Ruée Verte, que vous menez avec Marseille en Transition, qu'on a reçu il y a quelques temps. Est-ce que vous voulez présenter ce que c'est que la Ruée Verte? Et une fois que vous l'aurez présenté, nous dire quelle est la méthodologie que vous comptez utiliser pour le faire.
Pour nous, quand on a échangé avec les collègues de la base, et en plus, on ne se connaît pas d'aujourd'hui, on avait lancé pas mal de choses sur le jardin partagé qui avait à l'après-m, sur le 19 décembre, une action pour prouver qu'il n'y a pas de ruines de fond dans ce restaurant, et on a fait le burger végétarien. Donc on a créé des liens forts et on s'est dit, mince, comment on peut réfléchir, et on voit qu'il y a de plus en plus du béton, que il va falloir planter soit des arbres ou des plantes pour pouvoir répondre à cette future chaleur qu'on va sûrement rencontrer, que la Terre supporte de moins en moins.
Surtout après qu'il ait très peu plu, malheureusement.
Exactement. Et on s'est dit, comment on peut faire un petit projet avec des habitantes et des habitants, comment on peut réfléchir avec eux, comment eux veulent voir leur rue et leur lieu qui soit végétalisé, qui soit un peu expert
de leur lieu de vie
et de leur façon de vivre. Et donc on s'est dit, nous allons tracer un chemin qui pourra créer des branches, des racines, des feuilles, et qui peut s'éteindre là où celui qui souhaite partager ce projet et le faire grandir. Parce que même si nous cloisonnons à des quartiers populaires, la question de l'écologie nous concerne. Pas que la question sociale ou la précarité. Nous sommes écolos de naissance.
Alors si tu...
Vas-y, Chloé. Non, parce que c'est vrai qu'il faut qu'on imagine bien pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas ces quartiers, ces endroits, qu'en 1967, il y avait beaucoup dans ces endroits des fermes, en fait. Des fermes, ça a été transformé en bidonville, puis ensuite il y a eu la bétonisation des Hauts-de-Marseille qui a recouvert complètement le maraîchage. Et du coup, je trouve que c'est super intéressant qu'à travers l'après-M, il y a aussi la volonté de transformer les abords de ce lieu, en tout cas, en jardin nourricier.
Et surtout, quand on sait qu'en 67, c'était aussi lié à l'histoire française de la fin de la guerre en Algérie, ensuite avec beaucoup de personnes qui sont revenues, et toute l'histoire que tu racontais au début. Et donc, de partir de ces quartiers qui ont été hyper paupérisés dans la façon dont ils ont été pensés, et qui ensuite se ressaisissent de leur lieu de vie pour faire émerger ce que tu es en train de montrer.
Oui, se réapproprier les territoires.
Exactement.
On avait un échange récemment avec Kamel sur la question justement de l'enracinement, de comment en fait l'après-m, c'est un endroit où on veut aussi... Il y avait les projets à un moment donné de créer des burgers par quartier et d'utiliser cette occasion pour re-raconter les histoires des quartiers que parfois les jeunes eux-mêmes ne connaissent pas. C'est fondamental, on en est conscient dans la construction et particulièrement des plus jeunes. Et typiquement, ce que vous dites sur le fait qu'avant c'était des fermes, ça participe à cette difficulté d'avoir du mal à s'enraciner parce que cette question du territoire... Elle nous échappe et tout ce qu'on sait, c'est qu'avant, c'était des fermes. Il n'y a pas si longtemps, ici, c'était des fermes. Et nous, on a envie que l'après-midi, ce soit aussi un endroit où on se re-raconte les histoires de ces territoires, comment ils ont évolué, où on continue aussi à recréer ensemble l'histoire de nos quartiers populaires, quoi.
Et alors, ce qui est intéressant comme question, on en parlait en préparant l'émission lorsqu'on disait qu'on avait envie de parler d'écologie populaire, c'est, là, toi, tu venais de dire que vous vouliez retisser le lien à la terre, retisser le lien dans les quartiers. Comment est-ce que vous allez retisser le lien avec les personnes, les personnes qui viennent de tous ces milieux qui t'ont fait du mal, Kamel, en fait, on va dire les mots franchement. Et à quelle est la ligne juste que tu places et que vous placez à certains endroits où vous dites « avec tout le monde, on construit toutes les bonnes volontés » et dans d'autres situations où on peut se dire « là, toi, tu veux m'utiliser parce que c'est facile pour toi et en fait, ta position est un peu intermédiaire et elle va maintenir un statu quo de déséquilibre. » Comment est-ce que tu retisses le lien, surtout dans une ville comme Marseille, qui a des inégalités qui sont si importantes avec les quartiers sud, avec le pouvoir, avec ceux qui ont l'argent ?
C'est de faire comprendre à toutes ces personnes, nulle personne n'est au-dessus de l'autre. Nous avons toutes et tous un temps de vie. Et ce qu'on fera, ça risquerait de se retourner contre nous. Ou de pouvoir... sinon, ça risquerait de soit de... pervertir nos enfants ou de les entraîner dans l'entre-soi. C'est-à-dire que toutes ces personnes-là se sentent supérieures à d'autres et qui ont une intelligence. Donc la supériorité ne donne pas l'intelligence. Peut-être ramène une confiance, mais à toutes ces personnes-là, si on remet l'émetteur et le récepteur au même niveau, je pense qu'il n'y a pas de sachant ou de non-sachant. Chacun et chacune a un savoir-faire. Et ce savoir-faire, il va falloir qu'on le laisse s'exprimer, qu'on le laisse le démontrer par celles et ceux qui ressentent la douleur. Et il n'y a pas meilleur expert que eux. Souvent, on voit ces personnes-là venir comme des sauveurs, des héros, ils sont là pour les quartiers, ils sont là pour pouvoir ramener un dynamisme. C'est de la poudre aux yeux. Il n'y a pas meilleur expert que ces personnes-là qui ont vécu par la débrouille, qui ont pu essayer de se lever chaque matin et serrer les dents et n'avaient pas le choix que de se sentir en tant que sous-être, parce que ces colons, on va dire, ils arrivent en tant que colons. Parce que ils arrivent avec une idée. Cette idée-là, elle est horrible, parce que pour eux, la misère, c'est un business. Ils la comptent, la misère, ils la combattent pas. Parce que plus elle perdure, plus elle remplit leur poche. Et nous, ça nous fait mal au cœur de voir tout ça. On n'est pas là pour les pointer du doigt ou de se mettre à leur niveau, de leur faire la guerre. Mais ça nous attriste. Ça nous attriste que des responsables pour qui on vote donnent leur confiance à ces personnes-là. Donnent leur confiance à des personnes qui exploitent cette misère et qui essayent de la lisser.
Et en même temps, on a... au regard du temps qui vient, qui est déjà là, mais qui va être encore pire. Hier, on en parlait avec toi, Mohamed, on a vu que la mer avait baissé de niveau, on ne sait pas pourquoi. Il n'a pas plu pendant des semaines, et même des mois ici en plein hiver. Il va y avoir des contractions énergétiques, il va y avoir des contractions en matières premières. Les quartiers populaires vont être les premiers qui vont encore plus en prendre plein la figure. Ça va être toutes et tous qu'on va être obligé de se retrousser les manches, sinon ça va finir dans des conditions qui sont épouvantables. Et là, on est un peu sur la ligne de tangente où on a l'impression que Marseille, peut-être encore plus qu'ailleurs, tout est possible. Du pire, comme de cette espèce d'osmose qui pourrait émerger, on ne sait pas trop comment. Et nous, on a envie que l'osmose, elle puisse émerger. Donc qu'est-ce qu'on fait là? Il reste 10 minutes. Si on doit tracer la suite, vous êtes l'après M, donc le monde d'après aussi d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on construit ça?
Comme tu disais à l'instant, on en a discuté hier. Je pense que le mot qui est important, c'est l'eau. Donc s'il n'y a pas de pluie, donc il n'y a pas de végétation. S'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux qui peuvent manger cette végétation. Si nous, on ne peut pas s'hydrater, donc... on va droit à une catastrophe. Donc je pense qu'il faudrait regarder soi-même, et à ce moment-là, nos habitudes, eh ben, il faudrait les revoir et se dire que finalement, l'eau, c'est vital. Et au lieu de la perdre inutilement, de se dire que cette eau-là, il faut l'utiliser consciemment avec des bonnes pratiques. Donc c'est comme un peu quand on fait de la sensibilisation, quand on a été avec à plusieurs reprises avec des associations de ramassage de déchets, quand on sensibilise les enfants, on leur demande de pouvoir jeter... des sachets, le plastique, dans les poubelles, non pas à ciel ouvert. C'est un peu pareil pour l'eau. Au lieu de le jeter inutilement et de prendre des douches et de rester 3 heures, bon, c'est une image, mais de réduire au maximum notre consommation utile et non pas notre consommation inutile. Donc je trouve que c'est quand même un élément qui est très important. Et ensuite, à l'après-m, on a comme idée de récupérer cette eau aussi, pluviale, et de pouvoir aussi arroser... notre beau jardin que nous faisons tous les jours, et de pouvoir faire ce qu'il faut afin de changer les bonnes habitudes. Et l'homme a besoin de pouvoir changer des habitudes.
Merci Mohamed. Talina ?
En fait, je crois qu'on est tous conscients qu'il y a plein de nouveaux trucs à trouver, quoi. C'est-à-dire il va falloir être créatif. Et je crois qu'à l'après-midi, on est assez bon pour ça, assez ingénieux pour trouver des choses. Et, Il y a un autre truc, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie, elle est peu pensée à partir des quartiers populaires. Il y a vachement cette idée que les quartiers populaires, ils ne sont pas assez sensibilisés, ils ne sont pas assez... Nous, on est convaincus qu'il y a une énergie de dingue dans les quartiers populaires et qu'il y a des sacrées idées qui sont à prendre là. Mmh. Et en étant un peu un espèce de centre où justement, ceux qui... ont plein d'informations, une grosse culture sur les enjeux, sur des idées, ils viennent. Nous, on macère ça et de ça, on espère bien pouvoir ressortir aussi des idées qui sont un peu innovantes et qui n'ont pas été trouvées ailleurs, quoi. Et ça, je pense que c'est un enjeu qui est hyper intéressant parce qu'on ne voit vraiment pas le truc de « on va expliquer au quartier à faire de l'écologie ». On va vraiment réfléchir ensemble et on veut vraiment que les gens ils soient complètement acteurs d'essayer de trouver des solutions aussi. Et pas juste d'appliquer des trucs genre qu'on sait déjà et maintenant il va falloir que vous soyez des bons élèves. On veut aller bien au-delà de ça, quoi.
Et comment on fait ?
Je crois qu'il y a un peu comme ça a fonctionné là, exactement. L'histoire, je trouve, de la lutte du McDo, elle est super intéressante pour ça, quoi. La lutte, elle a été faite d'abord par les travailleurs et les travailleuses, mais heureusement qu'il y a eu des avocats hyper experts juridiquement qui sont venus apporter aussi, eux, cette expertise-là, qu'à ce moment-là a été entendue à partir du moment où, et je trouve que ça répond aussi à la question que tu posais tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'on fait pour que ce soit ouvert, mais qu'en même temps, on ne se fasse pas manger par des requins qui sont passés pour des dauphins, comme disait Kamel. C'est, les énergies, elles sont bienvenues quand c'est dans l'intérêt collectif et quand c'est dans l'intérêt du projet, en fait. Les gens dont on doit se méfier, et en fait, il y a plein de gens qui ont un regard sur qui arrive. Moi, je trouve ça super intéressant d'arriver à l'après-midi. À la fois, c'est hyper bienveillant, comme disait Kamel, qui arrive souriant hyper. Mais en même temps, tout le monde vous regarde. Et les gens qui ont un intérêt et qui sont là pour leur propre intérêt, ils sont assez vite captés et assez gentiment amenés à la porte de leurs mensonges.
C'est très compliqué comme position. Tout à l'heure, je ne citerai pas le nom, mais j'étais invité à un grand événement de préparation d'un festival sur l'écologie qui aura lieu à Marseille en septembre, ici même à la Friche. C'était des Parisiens qui organisaient ce festival, mais pour l'écologie populaire, les quartiers, l'impact solidaire... Et moi-même, qui viens de cette ville-là, mais qui suis venu à Marseille maintenant il y a 3 ans, j'ai eu un espèce de « attention, message de colon, message de colon, message de colon » qui a clignoté dans ma tête, et à ne plus savoir qu'est-ce qu'il fallait que je pense. Parce que je me disais, d'un côté, ils arrivent avec plein de bonne volonté, ils ont envie de changer les choses, d'autre côté, c'est très décalé, le discours est, à mes yeux, assez à côté de la plaque par rapport à la conversation qu'on avait eue la veille, Kamel, ou même il suffit d'aller juste... se promener au massif de l'Étoile et rentrer en centre-ville et juste voir ce qu'on voit sur le chemin pour se rendre compte que ce genre de discours pour ce festival-là ne se connecte pas. Quelle est la tangente pour dire on prend la bonne volonté et en même temps on embarque tout le monde et là c'est la situation, comme tu disais tout à l'heure, qui peut être un peu ambiguë, à côté de la plaque colonisatrice et celle où on dit on prend l'énergie, on prend la volonté de construire ensemble.
Non, je voulais dire juste une phrase avant que tu interviennes. C'est bien de faire avec les quartiers, avec les gens, avec ceux qui vivent à l'intérieur pour qu'on puisse avancer ensemble et non pas faire pour les quartiers. Voilà, si, là, je suis en train de dire que systématiquement, oui, il y a des colons qui viennent, mais les idées sont prises par ces jeunes des quartiers. Ils ont de bonnes idées. Et juste avant, en préambule, tu parlais d'armes. Je pense qu'il n'y a pas que les armes à feu ou à ce moment-là où on a cette étiquette-là des quartiers nord. Il y a aussi des armes qui sont aussi de l'intelligence, des idées, du fonctionnement, des pratiques, une bonne conduite. Et ça, on ne le met pas trop en avant. Et je pense que dans les quartiers, il y a pas mal de choses qui sont vraiment très, très belles à voir. Et lorsque vous parlez avec ces jeunes-là, il y a du bon et non pas du mauvais que les médias puissent interpréter et dire. Et on n'est pas de la chair à canon ou on n'est pas en train de systématiquement d'utiliser le mot « quartier », violence, trafic, à un moment donné, voilà. Enfin, moi, des quartiers nord, on entend systématiquement ça. Il y a vraiment des personnes qui ont une bonne conscience et ils ont un bon fond. Et si on leur tend la main et si on leur donne des outils, ils savent quoi en faire.
Ou alors reprendre les termes et les utiliser dans un autre sens.
Non, même pas. Plutôt, on va aller plus simple et plus direct. On a cette petite conscience qui fait ou ce qui est décidé pour nous, sans nous et réellement contre nous. Mais nous, on a cette conscience aussi que ce qu'on décidera et ce qu'on fera sans eux est réellement contre eux. Donc, ils n'ont pas le choix de remettre l'émetteur et le récepteur au même niveau si ils veulent qu'on puisse créer un Big Bang de demain. Mais sinon, ils peuvent ramer, ils vont ramer, mais jusqu'à se fatiguer, ils ne feront rien du tout dans cette ville ou ailleurs. Parce que n'ont pas les codes, n'ont pas cette petite, ce ressenti. Et il y a que à celle ou celui qui pratique le bien qui peut le ressentir. Mais de pouvoir nous donner une leçon sur l'écologie populaire, c'est lui qui a de l'argent, c'est lui qui gaspille le plus. Mais nous, en tant qu'enfants des quartiers populaires, c'est nous qu'on gaspille le moins. On utilise moins l'eau, c'est nous qu'on utilise le moins l'eau.
Qui vivait de la façon la plus résiliente, souvent parce que vous n'avez pas le choix aussi.
Qui on recycle, parce que souvent leurs habits, leurs affaires, c'est nous qu'on les récupère, parce qu'on n'a pas le choix que de les récupérer. Donc, à nous de leur faire rappeler à ces Parisiennes et ces Parisiens, ou à ces colons, ou à ces personnes qui deviennent d'une mauvaise intention, que ce qui est fait pour nous, ou ce qui est décidé sans nous, est réellement contre nous. C'est ça, on est ferme là-dessus. Mais nous, si on décide quoi que ce soit, on est obligé de les intégrer aussi, parce que sinon, on ne vaut pas mieux qu'eux.
Est-ce que c'est l'appel d'une main tendue pour conclure cette émission ?
Je dirais peut-être, même si on ne porte pas toutes et tous le même maillot, nous avons certes toutes et tous la même transpiration.
Merci Kamel. Est-ce que Talina et Mohamed, vous voulez aussi conclure avec une phrase à méditer pour la route ?
Je pense que voilà, seul on va vite, ensemble on va plus loin. Donc avec tout le monde, ben, on peut faire de grandes choses, mais c'est de pouvoir collaborer et qu'il n'y ait pas cette division ou cette fracture nord-sud. Et comme les personnes des habitants du sud de Marseille peuvent venir chez nous, comme nous, on peut aller chez eux. Et c'est ça qui fait la force d'une grande ville. Et c'est l'être avant toute chose et non pas le paraître.
Talina, est-ce que tu as... Franchement, c'est beau, Mohamed.
Bah, j'ai pas beaucoup plus à rajouter. Hein. Bienvenue à l'après-m. On est ouvert tous les jours pour la solidarité et pour venir manger, ce qui est aussi une action de solidarité en soi.
Eh bien, merci beaucoup, Kamel, Mohamed et Talina. Sachez à celles et ceux qui nous écoutent que cette émission sur Écoforum va faire partie d'un projet qu'on présentera la semaine prochaine qui s'appelle La forêt des possibles, qui vise à ce que en fait, chacune des personnes qui arrivent avec sa bonne volonté montre un peu ce que lui sait faire, ce que lui apporte, et que chacune soit un petit arbre et que ces arbres forment la forêt. Est-ce que tu veux conclure, Kamel ?
Juste, soyez des personnes solidaires. Venez vous restaurer à l'après-m. Donc venez goûter l'OVNI qui est fait par un chef étoilé. C'est le burger OVNI. Et ce burger-là nous permettra à nous de pouvoir aider des personnes qui sont dans la précarité. Donc, comme on dit à cœur vaillant, rien n'est impossible.
Et juste continuer aussi, c'est que nous avons aussi, pendant la période du mois du Ramadan, le menu suspendu. Vous pouvez venir et payer un menu et nous, par la suite, on pourra le distribuer et qu'ils peuvent, les amis de la rue, manger aussi un ovni étoilé et qu'eux aussi, ils ont la possibilité de pouvoir se restaurer comme toutes les personnes qui se déplacent chez nous à l'après-midi.
Et de là où on est, dans la France, hein, on peut acheter un ovni.
Eh bien, on espère que ça a été entendu. Il faut qu'on rende l'antenne. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci Kamel, merci Talina, merci Mohamed,
merci à vous.
Chloé.
Merci
Sidi
à tous.
En régie, on rend l'antenne. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Nous sommes des enfants des quartiers nord.
Nous sommes des enfants.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Et à pied ça fait loin jusqu'au vieux port.
Il y avait des vaches et des cochons.
Il y avait des vaches et des cochons.
fréquenté,
on dit que c'est un quartier mal fréquenté,
c'est rempli d'oubli.